Acte 5, verset 17. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Verset 40. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie.
Je lis dans Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment précis. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, comme je l'ai dit en introduction, aide-nous à vraiment ouvrir nos cœurs et à comprendre ces textes. Et je te prie encore pour Roger, pour que tu puisses renouveler ta sagesse et qu'il trouve aussi les bons mots pour nous transmettre le message que tu veux aujourd'hui. Amen.
Amen. Gardons nos Bibles ouvertes dans Actes 5, si nous les avons avec nous. Le bouton. Les chrétiens restent une minorité opprimée. Corée du Nord. De nombreux chrétiens détenus dans les camps de travail. Pakistan. Beaucoup d'abus commis au nom de la loi sur le blasphème. Beaucoup d'hommes et de femmes servent Dieu dans des conditions très difficiles et subissent des pressions extrêmes. L'Iran. Prions pour les chrétiens encore détenus. Égypte. De milliers de jeunes chrétiennes subissent une forme de discrimination quant au travail. Libye. Petite communauté chrétienne, ils vivent souvent dans la misère. Nigeria. Les chrétiens du Nord sont la cible d'une vague de violence. Afghanistan. De nombreux étrangers travaillant dans ce pays ont été tués. Tadjikistan emmène la vie dure aux chrétiens d'origine musulmane. Au sortir de l'église, ils sont poursuivis, insultés et menacés. Tchétchénie. Les rares chrétiens du pays sont souvent très isolés, discriminés. Turquie. La pression de la famille des ex-musulmans qui sont devenus chrétiens sont énormes pour qu'ils reviennent à l'islam. Notre sujet, c'est l'Église persécutée. Aujourd'hui, si vous suivez différentes missions qui se sont mises ensemble, ils proposent ce dimanche 11 novembre comme le dimanche de l'Église persécutée. Nous sommes conscients qu'il y a d'autres persécutions dans ce monde, mais aujourd'hui nous désirons nous montrer solidaires avec ce qui se passe envers nos frères et sœurs à travers le monde dans ces situations difficiles. En apparence, humiliation, défaite, livrés à leur sort, beaucoup de larmes. Mais plus profondément, en réalité, avec le recul des siècles, n'est-ce pas à travers beaucoup de souffrances et de persévérance qu'il y a une grande mission, une grande moisson qui a été entrée et qui sera encore entrée. Il y a la double réalité, donc. Il y a la souffrance, et puis il y a quelque chose d'autre qui se passe. J'aimerais juste lire un extrait de ce livre sur l'Église, la réalité de l'Église persécutée aujourd'hui, livre que je vous recommande. Je frappai doucement à la porte. Personne ne vint, mais je pouvais entendre des cris venant de l'intérieur. Je restai un moment indécis, le cœur battant, me demandant si la police ne m'avait pas précédé. J'écoutai plus attentivement et entendis que les cris étaient mêlés de rire. Je frappai plus fort, la porte s'ouvrit et trois hommes d'un certain âge apparurent, tous debout, un verre à la main. « Entrez, entrez !» dit Bao. « Laissez-moi vous présenter à mes amis. » L'un d'eux était M. Cheng, professeur de sciences souriant aux cheveux gris. Ce génie des mathématiques était retourné dans son pays dans les années 50 après ses études supérieures pour aider à bâtir la nouvelle société chinoise. Mao lui avait montré sa reconnaissance en l'obligeant à pelleter du sable pendant 20 ans au sein d'une équipe de travaux forcés. Mais la suite de l'histoire, que je vous laisserai découvrir dans ce livre, ils sont en train de trinquer à la santé de Mao Zedong. On verra tout à l'heure pourquoi. Quoi comprendre concernant l'Église persécutée? Notre texte en acte 5 raconte une histoire en trois temps. Arrestation, jugement, punition, sanction exemplaire. Un déroulement devenu classique, presque banal, à travers les siècles. La difficulté, c'est en quoi est-ce que ça nous concerne? On se sent tellement éloigné des réalités que eux, ils vivent. Quand j'étais petit, j'étais expédié chez ma grand-mère en Allemagne, qui habitait à Cologne. Et puis, Oma, comme je l'appelais, faisait chaque mois un colis pour sa sœur qui avait été retenue derrière le rideau de fer, si je me rappelle bien, une ville qui s'appelle Schwerin. Pourquoi elle faisait ça? Parce que c'était sa sœur. Ça se passait dans la famille, sa sœur était dans le besoin. Il me semble que nous avons une solidarité à vivre et exprimé dans notre famille de foi. Et c'est une solidarité qui se passe dans les deux sens. L'Église persécutée, il me semble, nous communique un trait de caractère que nous apprenons très difficilement dans notre facilité. Et je propose qu'on découvre cela aussi à travers notre texte. Donc, première étape, arrestation, acte 5, 17 à 25. La situation, on a arrêté les dirigeants du mouvement et on les a jetés dans la prison publique. Un peu comme des brebis au milieu des loups. En apparence, c'est l'humiliation, la défaite, le mouvement décapité pour ensuite neutraliser le tout. Puis, cet événement extraordinaire. Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit la porte, les portes de la prison, et les fit sortir. Dans chaque étape, j'aimerais qu'on pose une question. La première question, c'est pourquoi certains, ici les apôtres, sont miraculeusement libérés et d'autres, mais pas du tout. Réponse. Ils ont prié pour être délivrés? Peut-être. Quoi qu'on raconte que dans les campagnes pour libérer les chrétiens chinois qui étaient emprisonnés, presque sans exception, ils préféraient rester là où le Seigneur les avait placés, en prison. Étonnant. Alors, est-ce qu'ils ont eu la foi pour être délivrés? Ça, c'est délicat parce que ça sous-entend que dans le chapitre précédent, Pierre et Jean n'ont pas eu la foi pour être délivrés de la prison. Ça sous-entend que dans le chapitre qui suit, Étienne n'aura pas la foi de ne pas être lapidé et ainsi devenir le premier martyr. Jacques, quelques chapitres plus loin, manquera de foi quand il périt par l'épée. Alors, troisième proposition, leur préoccupation était tout autre. C'est que l'important se trouve ailleurs. Ça, je trouve plus convaincant. C'est ce que l'ange, en tout cas, semble avoir à l'esprit. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie nouvelle. Est-ce que c'est ailleurs, aussi auprès des humains qui sont passés par la persécution, que se trouve l'important? On retrouve notre ami Cheng. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire complète de l'Église persécutée si vous vous contentez d'écrire et d'écouter les récits de quelques individus qui ont subi le martyre ou ont été miraculeusement délivrés. Nous rendons grâce à Dieu pour ces témoignages, mais pour chaque récit de délivrance, il y a 1000 récits de persévérance. C'est cela la véritable histoire. Passez à côté de cela et vous aurez une vue limitée de la façon dont Dieu nous délivre. Trop d'Occidentaux veulent juste entendre parler de délivrance, alors qu'en réalité, ils ont besoin d'entendre parler de persévérance. Ici, dans notre texte, ils sont libérés. Tant d'autres auront besoin de persévérer. Donc, étape 1 commence avec les apôtres accroupis dans la prison et termine avec les apôtres debout dans le temple. L'objectif des opposants, enfermer, neutraliser, décision divine, continue à enseigner sur cette vie nouvelle à tous. Mais qui aura le dernier mot? Étape 2, jugement, versets 26 à 33. « Ils vous livreront aux tribunaux », leur a dit Jésus. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, dit le procureur. Déjà maintenant, deuxième apparition, mais le même problème. Pourtant, la dernière fois au chapitre 4, on ne peut plus clair. Défendons-leur avec menace, 4:17, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur défendaient absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ça aurait dû être une affaire classée, plus un danger public. Mais les voilà à nouveau avec leur message exclusif. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Manifestement, les menaces n'ont pas suffi. Il est temps de leur donner une leçon. Ça nous amène à notre deuxième question. Ne devraient-ils pas mettre un peu d'eau dans leur vin? Si cela entraîne autant d'ennuis, ça dérange tant que ça, pourquoi insister qu'il n'y a pas d'autre nom finalement? Pourquoi cette insistance? Ils sont étroits d'esprit, ces apôtres? C'est quoi supérieur? Ils ont essayé le judaïsme, maintenant ils passent au christianisme parce que c'est un peu mieux. Mais il n'y a aucun autre comme Jésus. Nous l'avons fréquenté pendant 3 ans, jour et nuit. Nous l'avons vu en forme, Et nous l'avons vu quand il était fatigué. Il est incomparable. Nous avons vu les gens se lever devant les grands de ce monde, devant Hérode, le tétraque là-haut en Galilée, devant Pilate, gouverneur ici en Judée, devant Caïphe, devant Anne. Mais devant Jésus, nous avons vu les gens se prosterner. Nous avons entendu parler de sa naissance. Nous avons vu sa mort et nous avons passé 40 jours avec lui après sa résurrection. Il n'y a aucun autre. Lui seul, quand j'ai dit « Éloigne-toi de moi, qui suis homme pécheur », mais il n'y a aucun autre qui a tout accompli en ma faveur. Lui seul s'est chargé de mon péché. En lui seul, il a l'assurance de l'au-delà. Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Je m'en vais pour vous préparer une place et là où je suis, là vous serez encore. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tel était le message des apôtres dans les versets 30 à 32. Nous avons un résumé qui a rendu d'abord perplexe, ensuite exaspéré et finalement fou, furieux. Et tel est le message aujourd'hui qui ne laisse pas indifférent dans beaucoup des pays du monde. Pourquoi cette insistance? Plutôt, pourquoi cette insistance d'empêcher à travers les âges que ce nom-là soit annoncé? Étape 2, donc, commence avec le rappel de l'interdiction par les autorités données précédemment et finit par le constat que tout Jérusalem est rempli de cette bonne nouvelle. En apparence, humiliation, défaite, ils sont à leur merci. En réalité, le progrès inexorable de la bonne nouvelle. Est-ce que ce serait là l'histoire de l'Église persécutée? Combat, défaite apparente, mais finalement, victoire. Troisième et dernière étape, pour en finir avec punition. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Outragés, battus, sans les terribles 40 coups moins 1, ils vous fouetteront, leur avertit Jésus. Et notre question ici, pourquoi Dieu permet de telles choses? Ça semble pas être la préoccupation de l'Église persécutée. Non, notre question ici se trouve sa racine au verset 41. Ceux-ci retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, joyeux, déçus, amers, peut-être, humiliés, fâchés, on pourrait comprendre, mais joyeux. Voilà le visage inattendu de l'Église persécutée. Voilà pourquoi nos amis chinois étaient en train de trinquer à Mao Tse-tung, parce qu'ils vont expliquer, je veux, si vous me laissez, oui, j'ai le temps, je crois. Mao Tse-tung a tout changé. Savez-vous ce qu'il nous a dit? Il a dit que nous allions établir le ciel sur la terre. Il a dit que nous l'établirons par la vérité. Il a dit que nous pourrions réaliser ce projet seulement par la foi, la confiance réciproque. Il a dit que nous allions appartenir à une Chine éternelle. Et puis, dit Bao, Mao est mort en 76. Mais les dieux ne sont pas censés mourir. Alors suit l'époque de Den, et puis à peine avions-nous le temps de commencer à parler de Jésus, renchérit M. Cheng, que les gens s'écriaient, arrêtez, nous voulons croire. Je le disais alors, mais attendez une minute, vous n'avez pas encore entendu la fin de l'histoire, dit Bao en riant. Et eux, ils continuent, non, celui dont vous avez parlé, nous parlez est le Dieu que Mao nous a appris à chercher. Nous pensions que Mao était celui qui nous sauverait, mais c'est impossible, puisqu'il est mort. Nous comprenons maintenant que ce doit être Jésus. Bao et Cheng racontèrent avec enthousiasme leur expérience quand ils se déplaçaient de village en village et voyaient l'évangile accueilli avec une faim à peine croyable. D'autres évangélistes rapportent la même chose. Et ainsi, dans les années 80, un réveil aux proportions gigantesques a commencé à balayer la vaste paysannerie de la Chine rurale. Même histoire en Iran aujourd'hui. Et ça ne m'étonnerait pas en Corée du Nord demain. Nous étions quelques-uns à entendre un Marocain converti, qui s'appelle Hicham, il a dit qu'il a souvent l'occasion de parler de musulmans de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Et souvent, ils disent, nous voulons pas vous entendre parler de ce nom-là. Mais il a dit, je rencontre aussi beaucoup d'Iraniens. Et j'ai pas encore rencontré un seul qui ne veut pas parler de Jésus. Un autre orateur était là pour parler des effets du printemps arabe. Est-ce que ça va faire taire le nom? Alors lui, il a raconté que un journaliste a pris contact avec le standard d'émissions chrétiennes qui passent partout au Moyen-Orient et plus loin. Et ce journaliste voulait savoir un petit peu, mais quel est l'impact de ces émissions? Alors le standardiste, une dame, a raconté l'histoire suivante. Elle a reçu un jour un coup de fil de l'Arabie Saoudite. Elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, au monsieur au bout du fil? Et ce monsieur a dit, mais ça fait 2 ans maintenant que je suis vos émissions à la télé. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique ce que nous croyons, nous, les chrétiens? Non, il a répondu. Depuis les 2 ans que je suis les émissions, j'ai bien compris de quoi il s'agit, la foi chrétienne. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? C'est que je veux devenir chrétien. Comment est-ce que je fais? Alors, la personne, comme au verset 31, a expliqué concernant la repentance, le pardon des péchés et la foi en Jésus, le conduire dans une prière. Et lui, il a dit, mais est-ce que tu peux aller plus doucement parce que nous sommes 26 dans la pièce qui veulent prier la prière avec vous. Persécution et moisson. Le MENA dit que sur leur site internet, chaque mois, il y a 11 000 visites de l'Arabie Saoudite. Chaque mois. Dans les mots de Bao, notre ami chinois, ce fut un enfer à traverser. C'est pourquoi ils ont besoin de savoir que nous sommes solidaires avec eux, mais pas de pitié, solidarité. La grande question, c'est comment éloigner comme nous sommes. Nous pouvons assister à des conférences. Nous pouvons nous documenter par certaines missions comme Portes Ouvertes. Il y a des lectures qui nous aident à saisir ce qui se passe en réalité. En lisant des psaumes de complainte, on peut se mettre dans leur peau. Imaginez qu'on est dans un camp de travail en Corée du Nord et dire le psaume comme un cri en leur faveur au Seigneur. On peut écrire des pétitions. On ne peut pas faire tout, mais peut-être il y a quelque chose que nous pouvons faire. L'histoire de l'Église persécutée, il me semble que c'est ça. En apparence, larmes, défaite, humiliation. En réalité, une grande moisson qui entre. Prions. Seigneur, c'est tellement facile pour nous d'aborder cette question dans notre confort. Nous te demandons de ce que par ton esprit tu appliques dans nos cœurs ce que tu désires nous communiquer ce matin. Donne-nous à persévérer comme eux, ils savent persévérer. Aide-nous à lever les yeux et voir que la moisson est blanche et que tu es en train de l'entrer encore dans tant de pays dans notre monde. Seigneur, nous te remettons nos questions et nous te prions de nous aider à voir clair dans ce que tu fais à la gloire de ton nom. Amen.